Avant de lire dans les Écritures, nous prions. Éternel, que ta parole nous surprenne et nous saisisse, qu'elle nous oriente et nous entraîne, qu'elle nous habite et nous décide, que nous fassions d'elle notre joie pour ensemble la prodiguer, la partager à d'autres. Par ta parole, nous mettons des mots sur nos vies et nous voulons aussi poser des actes sur nos mots, encouragés par toi qui soutiens le monde et notre existence. Amen. Je vous invite ce matin à entendre un texte de l'Évangile de Jean, donc que nous avons lu avec le groupe de la pause biblique du mardi. C'est au chapitre 4, les versets 5 à 26. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait la source de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'était assis tel quel au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient allés à la ville pour acheter de la nourriture. La Samaritaine lui dit : « Comment, toi, qui es juif, peux-tu me demander à boire à moi qui suis une Samaritaine ?» Les Juifs, en effet, ne veulent rien avoir de commun avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau-là pour que je n'aie plus soif et que je n'aie plus à venir puiser ici. » « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as raison de dire « je n'ai pas de mari », car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que toi, tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit : « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. Jésus et la femme ont soif tous les deux. Et c'est pourquoi ils se parlent, pourquoi ils parlent et s'écoutent l'un l'autre. Dans l'abondance des thèmes abordés par ce récit au bord du puits, il est en particulier question de soif. Et c'est dans le dialogue entre Jésus et la femme que les soifs se révèlent et qu'elles sont apaisées. C'est à travers les paroles échangées que passe l'eau qui les désaltère et l'un et l'autre. Jésus a soif de rencontre, de paroles et d'écoute, parce que c'est ainsi qu'il peut donner à la femme ce qu'il est venu donner, non seulement à elle, mais à tous et à toutes. La femme a soif de rencontre, de paroles et d'écoute, elle qui vient puiser toute seule de l'eau à l'heure la plus chaude de la journée, au lieu d'y aller le matin quand il fait encore frais avec d'autres femmes. Soif de parole, soif d'écoute. Mais ce n'est pas tellement étonnant, car nous nous souvenons que le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Jésus, est Dieu qui vient en rencontre, Dieu qui appelle à l'écoute, Dieu qui parle. Soif de parole et d'écoute, soif de rencontre, enveloppe la soif de reconnaissance dont nous savons bien, avec un peu de lucidité, avec un peu d'humilité, qu'elle est soif profonde en chaque être humain. À la sixième heure, au puits, Jésus et la femme se parlent et s'écoutent. Et nous, quand, où, comment nous parlons-nous? Quand faisons-nous place à nos soifs de rencontre et de dialogue, à nos soifs de reconnaissance? Quand faisons-nous place en nous à l'écho de l'antique parole biblique, soufflant la divine volonté qu'il n'est pas bon que l'humain soit seul? Il y a pourtant trois raisons pour que Jésus et la femme ne se parlent pas et ne continuent pas à se parler. Il est un homme et elle est une femme, dans une structure sociale patriarcale qui ne favorise pas le dialogue en vis-à-vis, puisqu'elle hiérarchise en minorant les femmes, en leur accordant une place réduite. Il est juif et elle est samaritain, et les juifs ne veulent pas avoir de relation avec les samaritains qui n'adorent pas Dieu à Jérusalem. Ils ne veulent rien avoir en commun, selon la juste expression de la traduction de la Nouvelle Bible Second. Juifs et samaritains, rien en commun. Les juifs considérant les samaritains à la fois comme des hérétiques, des impurs, des ennemis. Et puis, la femme a eu 5 maris et vit avec un sixième homme qui n'est pas son mari. Un parcours conjugal particulièrement chaotique qui ne dit rien de bon d'elle, évidemment, et la rend infréquentable. Jésus ne devrait pas lui parler. Lui et elle ne devraient pas se parler. Et lui, surtout, devrait l'exclure du champ de la rencontre, du dialogue, de la parole et de l'écoute. Une triple exclusion sur laquelle le récit nous renseigne et qui est encore largement pratiquée. Exclusion sociale, puisqu'elle est femme de cette moitié de l'humanité considérée comme mineure, moins importante, moins capable, moins estimée, moins digne de prendre part dans l'espace public. La semaine dernière, nous avons tous pu apprendre que les droits des femmes sont en régression dans le monde, une régression soutenue par bien des religions dans leurs formes les plus conservatrices, y compris en protestantisme. Cependant, les femmes ne sont pas le seul groupe social à subir une exclusion sociale. Pour différents motifs, Les tziganes le sont par rejet d'un mode de vie trop différent de la norme commune. Les personnes handicapées par manque de structure, d'équipement et surtout de volonté d'inclusion. Ou encore les personnes homosexuelles ou transsexuelles sur lesquelles tant de regards malveillants sont toujours portés. Exclusion religieuse ensuite, les juifs qui ne veulent avoir rien de commun avec les samaritains, mais plus largement exclusion idéologique selon les différentes catégories de personnes constituées par les croyances religieuses ou idéologiques qui se servent des notions de pur et d'impur, de légitime et d'illégitime, ces notions si facilement manipulables pour constituer des leviers de rejet de tel ou tel groupe. Et puis troisièmement, exclusion morale, n'est-ce pas, cinq maris et un sixième homme. Exclusion qui fonctionne par a priori, par préjugés, qui sont porteurs d'une très grande violence symbolique, verbale et parfois même physique. A priori et préjugés qui prétendent ainsi faire rentrer la personne dans le cadre des normes admises, mais par la peur ou par la contrainte. Alors nous, quand, où et comment nous parlons-nous? Pourtant, toute l'histoire de l'humanité nous fait comprendre que d'exclusion en exclusion, il ne reste toujours que le pire de l'humain. Un régime de Caïn, meurtrier par déni de fraternité, ou un totalitarisme babélien de briques toutes uniformes, ne parlant pas, prononçant les mêmes paroles. Quel acharnement, hier et aujourd'hui, à trier les personnes, à exclure celles avec lesquelles on ne veut rien avoir de commun, à dresser des murs, à établir des frontières bien gardées, aussi étanches que possible. Quelle frénésie, hier et aujourd'hui, à disqualifier autrui, pour se sentir soi-même un peu plus légitime, à essentialiser l'autre pour mieux s'en tenir éloigné ou le tenir à distance, à le juger pour se justifier, à le discréditer pour se faire valoir. Quelle ardeur, hier et aujourd'hui, à transformer en séparation, en discrimination, en hiérarchie, les différences et les distinctions qui constituent l'humanité, à considérer les nuances comme des problèmes, à pétrifier le pluralisme en monolithe, à choisir les dogmes contre le jeu chatoyant des diversités. Et cela parfois même au nom du Dieu de Jésus-Christ, qui n'en demande pas tant, puisque Jésus, lui, parle avec tous et toutes, lui qui a soif de rencontre pour donner ce qu'il vient donner. Jésus transgresse et traverse toutes les frontières d'exclusion et les catégories qui discriminent, les jugements qui condamnent, pour faire place commune à tous. Et ce jour-là, c'est au bord du puits. Parce que Jésus veut que la Samaritaine soit libérée des étiquettes et des préjugés qui la contraignent. Parce qu'il vient la mettre au large dans une existence aussi singulière que reconnue, parce qu'il peut la désaltérer de cette soif de reconnaissance qui la taraude. Parce qu'il est, lui, Logos, parole faite chair, puissance de création et de vie, dont toutes les humaines paroles d'accueil et de reconnaissance portent les beaux échos et les précieuses résonances. Parce qu'il est le Christ qui lui parle. Le Christ qui lui annonce que ce n'est ni Jérusalem, ni la montagne des Samaritains, le mont Garizim, qui peuvent prétendre être le juste lieu de l'adoration de Dieu, parce qu'il n'est pas d'autre lieu pour l'adoration que l'être humain qui adore. Et que le culte n'était pas mieux hier, et qu'il ne s'agit pas de l'espérer dans le futur, parce que c'est maintenant, quel qu'ait été le passé, et quoi que le futur apportera. C'est en esprit et en vérité, ni à Jérusalem, ni au Garizim, mais là, là où l'on se tient, là où l'on se trouve, là où l'on se retrouve, et quand on se parle, à la sixième heure, au bord du puits. Jésus et la Samaritaine se parlent en esprit et en vérité, et ce dialogue est une adoration de Dieu, une adoration qui n'est pas cultuelle au sens du culte dominical, au sens des liturgies, des rites ou des prières, mais une adoration existentielle au sens du quotidien des existences, en esprit et en vérité. Dieu est esprit, dit Jésus à la femme, esprit qui est inspiration du monde et des êtres, c'est-à-dire vie, respiration, souffle, parole, poème, créativité, courage et force. Vérité qui est le Christ lui-même. Jésus le dira plus loin dans l'Évangile à ses disciples, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, puissance de transformation selon l'Esprit de Dieu. » Bien sûr, le récit donne à voir une vérité de l'humain qui est d'avoir soif de rencontres, de paroles, d'écoute, de reconnaissance, qui le font devenir humain. Bien sûr, l'esprit de l'humain lui permet de voir plus loin que ce qui est apparent, plus loin que les apparences qui prétendent régir nos apparitions sur la scène publique et même quand c'est devant un tout petit public. Et cela nous fait appréhender un au-delà de nous-mêmes, existence qui nous attend, qui nous appelle, car c'est notre vocation. En esprit et en vérité, Jésus parle à la Samaritaine. C'est cela qui lui permet de se décaler de l'image qu'elle a d'elle-même, que les autres ont d'elle, parce qu'il croit en elle avant même qu'elle croie en lui. Et il le lui témoigne en parlant en sa faveur à elle. En esprit et en vérité, ce n'est pas mon opinion, ma pensée, mon point de vue, ce n'est pas ma vérité ou celle d'un autre. Ce n'est pas non plus la sincérité, ni le ressenti, ni la croyance, ni la subjectivité, tout ce qui peut encapsuler chacun et chacune comme dans une armure ou une forteresse. En esprit et en vérité, c'est ce qui fend les conformismes, les complaisances à soi-même, les identités assignées et les identifications qu'on projette sur autrui ou sur soi-même. En esprit et en vérité, c'est ce décollement de soi-même, surtout du même de soi-même, pour un soi autrement. Et c'est la présence du Christ qui est là et que la Samaritaine reconnaît alors. L'esprit et la vérité s'originent dans un au-delà de nous et nous emmènent au-delà de nous. Se parler en esprit et en vérité, c'est cet engagement en rencontre en faveur de l'autre, sans envisager de conditions ni de limites. Comme Jésus le fait avec la Samaritaine. Et comme la Samaritaine finit par s'y engager, elle aussi, même si ça racle un peu au début, et elle n'est plus isolée, mais reliée, non seulement au Christ, mais aussi aux gens de Sichem, qu'elle retourne voir, qu'elle retourne chercher ensuite. En vérité, en esprit, ils se parlent, le Juif et la Samaritaine, qui ne devaient rien avoir en commun. Les différences ne disparaissent pas, mais elles ne sont plus prétexte à jugement, ni à exclusion. La diversité n'est plus un obstacle à aplanir, mais une relance permanente dans une dynamique de reconnaissance mutuelle. Et nous alors ? Quand ? Où ? Comment nous parlons-nous ? Pas seulement dans ce temple, de cette paroisse, cette communauté, mais nous tous dans le monde. Alors que les dialogues semblent s'étouffer sous les invectives, les insultes, les mépris, les mensonges, les médisances, par l'exigence de l'immédiateté, alors que l'espace commun et rassembleur des questions partagées et délaissées au profit des affrontements de clans ou des indifférences délibérées. Quand, où, comment nous parlons-nous ? Chers amis, les églises doivent être de ces lieux où chaque personne peut parler et être écoutée, où l'on se parle en esprit et en vérité, où chaque personne s'exerce à l'écoute et à la parole, au dialogue, et est ressourcée elle-même d'écoute, de parole et de dialogue. Lieu où l'on peut avoir et créer du commun les uns avec les autres. Mais nous ne sommes pas quittes de l'offrir et de le vivre ainsi en Église. Nous ne sommes pas quittes au foyer de l'âme de ce que nous vivons et offrons dans les différents groupes ou de ce que nous avons proposé avec les cultes conférences de ces dernières semaines. Nous nous exerçons ici pour proposer au dehors des rencontres, des dialogues, chacun, chacune où il va, et peut-être ainsi donner envie, donner des idées, donner des élans autour de nous, donner soif, plus exactement, aider à prendre conscience nos relations, ce que nous croisons, de leur soif de vérité, de respirer, d'être humain et de vivre enfin. Amen.